Merci d'écouter RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
L'heure de retrouver, comme tous les soirs, votre journal en français facile. Avec à la une, la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus en Chine. Une cinquantaine de nouveaux cas ont été découverts ces derniers jours à Pékin. Des cas liés à un grand marché de la capitale qui a été fermé. 11 quartiers ont été confinés en urgence et 10 000 personnes vont être testées. Pendant ce temps, la course au vaccin continue et le groupe pharmaceutique AstraZeneca annonce passer à la phase 3 de ses essais. 4 pays européens ont signé aujourd'hui un accord avec le groupe pour garantir la distribution du vaccin dans l'Union européenne quand il sera trouvé. À la une également, une nouvelle journée de manifestations en France contre le racisme et les violences policières. Des milliers de personnes étaient réunies à Paris. Leur cortège a été bloqué par la police qui a tiré des gaz lacrymogènes. Et puis en Australie, les aborigènes rejoignent le mouvement antiraciste Black Lives Matter, ce qui veut dire en anglais « les vies des Noirs comptent ». Nous serons à Sydney à la fin de ce journal.
Le journal en français facile.
Des quartiers confinés en urgence, des milliers de tests à venir, 5 mois après la première explosion de l'épidémie de coronavirus. La peur est revenue à Pékin avec la découverte de nouveaux cas. Cela faisait 2 mois que la capitale chinoise n'avait pas détecté officiellement de nouvelles infections. Les autorités parlent d'un dispositif de guerre pour empêcher une deuxième vague. Explication à Shanghai de notre correspondant Simon Leplâtre.
Pékin ne veut laisser aucune chance au virus. La ville qui a enregistré une cinquantaine de cas en quelques jours prend le problème très au sérieux. Hier, les autorités ont annoncé vouloir tester au moins 10 000 personnes. C'est comme ça qu'ont été identifiés ces nouveaux patients dans un marché de gros. Sans hésiter, les autorités ont fermé sur un gîte pékinois ce matin au risque de déstabiliser l'approvisionnement en vivres de la capitale chinoise. 4000 prélèvements ont été effectués sur des surfaces et c'est notamment sur une planche servant à couper du saumon importé que le virus a été trouvé. Et voilà des milliers de supermarchés qui retirent le saumon de leurs étals. À Pékin, le district du sud où se trouve le marché est passé en état d'urgence. 11 quartiers ont été confinés et les événements sportifs annulés. Les écoles primaires qui devaient rouvrir ont repoussé la reprise. Dans le centre de Pékin, les comités de quartier font même du porte-à-porte pour demander aux gens s'ils se sont rendus au marché de Xinfadi ces derniers temps. Shanghai, Simon Leplâtre, RFI.
La crainte d'une deuxième vague de l'épidémie qui restera tant qu'un vaccin ne sera pas trouvé. 4 pays européens ont signé aujourd'hui un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour garantir à l'Union européenne la distribution de 300 millions de doses du vaccin contre le coronavirus une fois qu'il sera trouvé. Le principe de cet accord signé par l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas, c'est que les avances sur paiement des pays permettront d'investir rapidement dans la production du vaccin. AstraZeneca va lancer la phase 3 de ses essais et annonce des résultats sur l'efficacité du vaccin. Au mois de septembre, le groupe négocie avec le Japon, le Brésil, la Russie et la Chine pour conclure des accords similaires.
Le journal en français facile.
La Chine avait lancé le mouvement l'an dernier. Voilà maintenant que le Japon décide à son tour de limiter le nombre d'heures que les jeunes sont autorisés à passer devant les écrans. L'objectif est de les protéger des addictions au numérique. Les adolescents japonais sont les plus grands utilisateurs au monde des messageries instantanées et des jeux vidéo en ligne. La mesure mécontente les jeunes, bien sûr, mais aussi beaucoup de parents. Reportage de Bruno Duval à Tokyo.
1 heure à 1h30 de jeux vidéo ou d'internet par jour, pas plus, c'est désormais la règle dans la région de Yokohama. Bientôt, ce sera le cas aussi à Nagoya, la deuxième ville du pays, et Tokyo elle-même pourrait franchir le pas. Selon les sondages, l'opinion juge ces ordonnances préfectorales exagérées. En plus, en ce moment, en raison de l'épidémie, les Japonais ont l'instruction de continuer à sortir le moins possible de chez eux. Donc en termes de timing, ces restrictions tombent vraiment mal, selon ces Tokyoïtes.
Franchement, ce n'est pas le moment. Ce n'est déjà pas drôle pour les enfants d'être enfermés à longueur de journée à la maison. Donc, sans jeux vidéo, ce serait encore plus pénible pour eux.
Bien sûr qu'il faut fixer des limites aux ados, sinon ils passeraient leur vie scotchés à leur smartphone. Mais les politiques n'ont pas à s'en mêler, cela doit se décider en famille. C'est n'importe quoi. D'abord, une heure par jour, ce n'est pas assez. Ensuite, cette mesure est inapplicable. Les policiers vont venir chez les gens, contrôler le temps qu'ils ont passé devant les écrans. Surtout, cela stigmatise les jeux vidéo. Or, ils apprennent plein de choses aux enfants.
Pour beaucoup de juristes, ces réglementations bafouent les libertés individuelles. La justice va devoir se prononcer. Avec le soutien de ses parents, un jeune de 17 ans vient d'introduire un recours en inconstitutionnalité. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
RFI 22h05 à Paris, en France, la question des violences policières est revenue au cœur du débat et les policiers s'opposent aux propositions du ministre de l'Intérieur. L'organisation Amnesty International plaide aujourd'hui, dans ce contexte, pour une réforme systémique des pratiques policières dans le pays, mais aussi pour une réponse globale dans la lutte contre les discriminations raciales. Difficile pour autant de déterminer l'ampleur du racisme dans la police sans chiffres. Et c'est pour cela que la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, suggère aujourd'hui de rouvrir le débat autour des statistiques ethniques. Un débat qui, dit-elle, doit être apaisé et constructif. Une idée qu'elle défend dans une tribune publiée ce samedi par le journal Le Monde. Philippe Le Caplin l'a lu pour nous.
Après avoir rappelé que venue du Sénégal, elle est arrivée en France alors qu'elle avait 16 ans et qu'elle a fait l'expérience du racisme ordinaire, Sibeth Ndiaye écrit ceci. Nous avons fait de l'universalisme le fondement de nos lois, mais à ne pas pouvoir mesurer et regarder la réalité telle qu'elle est, nous laissons prospérer les fantasmes. Et d'expliquer, il y a là quelque chose dont nous devons nous ressaisir urgemment, sous peine de donner raison à ceux qui en détournent le sens et en exploitent sans vergogne les faiblesses. Il faut savoir qu'à la différence des pays anglo-saxons, la France interdit les politiques ciblées, les quotas ou les statistiques ethniques, cela pour éviter toute stigmatisation et traiter tous les citoyens à égalité. Mais la porte-parole du gouvernement explique que désormais, il ne faut pas confondre les outils de lutte contre les discriminations raciales avec les moyens de lutter contre la discrimination sociale. Cette question sur les statistiques ethniques n'est pas nouvelle. Alors, Premier ministre Manuel Valls l'avait relancée en 2015, mais François Hollande s'était montré réticent. Son successeur, Emmanuel Macron, déclarait mercredi au dernier Conseil des ministres que le racisme est une maladie qui touche toute notre société et nul doute qu'il y reviendra dans son allocution de dimanche soir.
Philippe Le Caplin et la France où le Conseil d'État rétablit ce soir la liberté de manifester quelques heures après l'interdiction d'une manifestation à Paris contre le racisme et les violences policières. La place de la République était noire de monde. 15 000 personnes s'y étaient rassemblées selon la préfecture. La police a bloqué les manifestants sur la place et les a empêchés d'avancer vers l'opéra comme prévu. Au bout de 3 heures de rassemblement statique, la police a tiré des gaz lacrymogènes après avoir reçu quelques projectiles. Interrogé par nos confrères de France Info, le délégué du syndicat de police Vigie trouve que le blocage du cortège s'explique assez difficilement alors qu'hier des policiers en colère ont pu défiler dans Paris. Un mouvement contre le racisme et les violences policières relancé tout autour du monde par la mort de George Floyd il y a 2 semaines aux États-Unis. On manifeste aujourd'hui en Australie où la dénonciation du racisme trouve un écho très fort chez les aborigènes. Une manifestation interdite pour des raisons sanitaires a eu lieu hier soir à Sydney. Notre correspondant Grégory Pless y était.
Malgré l'interdiction, des centaines de personnes ont défilé à Hyde Park hier soir en plein cœur de Sydney pour dénoncer une nouvelle fois les violences policières. Les aborigènes, plus que toute autre catégorie de population, y sont particulièrement exposés. Écoutez Aïcha, c'est une juriste, elle était à la manifestation hier soir.
Une personne aborigène risque 20 fois plus de se faire arrêter par un policier que le reste de la population.
Et bien plus souvent également, ils risquent de finir en prison. Les aborigènes représentent 3% de la population australienne, mais 30% de la population carcérale. Ce taux d'incarcération est d'ailleurs bien plus élevé encore que celui de la communauté des Afro-Américains aux États-Unis. Les aborigènes, eux, ont 15 fois plus de chances de finir en prison que le reste de la population. Et c'est à vrai dire encore pire en ce qui concerne les enfants. 60% des mineurs en détention, et en Australie, on est responsable légalement dès l'âge de 10 ans, sont également aborigènes. Toujours marginalisés au sein de la société australienne, leur espérance de vie est de 8 ans plus courte que celle du reste de la population. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Carrefour.